Cause à effet, le magazine de l'environnement.
On est prêt.
Aujourd'hui, on a envie de vous annoncer qu'on est prêt.
On est prêt à relever un grand défi.
On est prêt à agir pour le climat.
L'histoire a prouvé que toutes les mobilisations qui réunissaient 3,5% seulement de la population réussissaient à faire basculer un système.
En France, ça fait 2,5 millions de personnes.
À partir du 15 novembre, on se lance dans le grand défi.
Un défi inédit dans l'histoire de l'humanité.
Devenir zéro déchet, rejoindre une asso, aller dans une banque qui ne finance pas les projets fossiles, diminuer la viande ou encore baisser le chauffage.
Imaginez la chance qu'on a. On est la génération qui peut changer le monde.
Tu deviens un acteur de ce changement, un héros de l'histoire. Alors, est-ce que t'es prêt? Parce que nous,
on est prêts.
Depuis la rentrée, de toutes parts, les voix citoyennes s'élèvent pour défendre la planète face au réchauffement climatique et exiger des gouvernants des choix politiques d'envergure en ce domaine. La rue et les agora sont entrés dans l'arène politique et entendent bien y jouer leur rôle. Parmi ces voix qui se font entendre, celle des jeunes, qui n'hésitent pas à appeler à faire la grève des études, à l'image de Greta Thunberg en Suède, ou qui s'engagent à ne pas exercer leur futur métier dans une entreprise dévastatrice pour la Terre et le monde du vivant. Pour le 15 mars prochain, à l'échelle mondiale, ils appellent à une grève massive pour le climat. Qui sont-ils? En quoi leur mouvement diffère des autres? Peuvent-ils bouleverser la donne? Analyse de ce phénomène un mois avant le rendez-vous qu'ils nous donnent à l'échelle de la planète. Et avec nous, Hervé Kempf, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef de Reporter et auteur notamment du livre « Tout est prêt pour que tout empire », livre paru au Seuil. À vos côtés, Yann Lelanne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue au Centre de Recherche Individus, Épreuves, Société de l'Université de Lille. Et vous êtes aussi à côté d'un jeune homme, Julien Gasque, bonjour.
Bonjour.
Étudiant à l'École de Commerce ESCP Europe et un des membres du Manifeste étudiant pour un réveil écologique. Et enfin avec nous, Mathilde Himmer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondatrice d'associations d'étudiants et de jeunes pour le climat. Vous avez beaucoup de fonctions, on en prendra la mesure dans l'émission. Et vous êtes notamment l'une des réalisatrices de la vidéo L'affaire du siècle. Je rappelle, c'est cette pétition dénonçant l'inaction climatique de l'État et qui a récolté plus de 2 millions de signatures à ce jour. Politique et environnement, les jeunes sont vent debout. C'est le sujet de notre émission en partenariat avec la rédaction des pages Planète Sciences du Monde. Préparer l'émission par Anaï Morales avec la complicité de Anne Gouzon, Valérie Ernould, Caroline Chausset, Vanessa Chang, réalisée par Alexandra Malka avec à la technique aujourd'hui Emmanuel Morse-Duncan. Bonjour à tous et bienvenue.
On se plaint beaucoup que l'économie prend le dessus sur l'écologie, c'est un peu l'impression qu'on a. Tout le monde nous dit que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit. Prouvez-le nous, quoi. Il y a des tas de solutions, mais personne ne veut les écouter. On est la génération de demain, quoi. On est les adultes de demain. Et c'est à nous de nous lever. Ça sert à rien de grandir et de nous faire devenir des adultes en allant à l'école si c'est pour devoir ramasser un monde en miettes, quoi.
C'était le 31 janvier dernier en Belgique, exemple de ces voix de jeunes que l'on entend désormais dans de nombreux pays. Alors, à quel moment a-t-on vu émerger ce mouvement spécifique parmi les mouvements citoyens, Hervé Kempf?
Enfin, nous, on l'a localisé autour de 2014-2015, quand aux États-Unis, il y a des jeunes gens, le plus jeune avait 9 ans quand il a commencé la procédure juridique avec une association qui s'appelle Our Children Trust, l'organisation des enfants, en quelque sorte, et qui a fait un recours contre le gouvernement fédéral états-unien pour son inaction en matière climatique. Et ils ont gagné. Enfin, il y a eu toute une histoire à rebondissement juridique jusqu'à la Cour suprême qui, pour l'instant, a fait, il y a un peu plus d'un mois, un non. Donc, il y a encore un recours juridique, je crois, possible. Mais c'est, à notre connaissance, le premier moment où des jeunes se sont impliqués en tant que tels dans une démarche politique, puisque l'action juridique est aussi une action politique dans ce cas-là. Et puis après, ça a rebondi, notamment avec Greta Thunberg, cette jeune lycéenne suédoise qui a lancé une grève du climat en se postant tous les vendredis, je crois, devant le Parlement suédois.
Donc c'était en août, hein, 2018.
Voilà. Et puis, depuis quelques semaines, on voit des manifestations extrêmement importantes en Belgique. Il y a eu 70 000 personnes en janvier pour le climat à Bruxelles, 40 000 personnes, il y a encore le 2 février en Suisse, dans différentes villes de Suisse. En Australie, il y a eu des manifestations aussi en décembre avec plusieurs milliers de personnes. Et puis en France, il y a eu une action vendredi qui a commencé des étudiants et de jeunes pour le climat.
Yann Lelanne, vous, en tant que sociologue, Vous avez perçu à quel moment ce mouvement qui méritait d'être justement étudié scrupuleusement par vous et votre équipe, hein, vous êtes plusieurs, à vous immerger dans les manifestations, à essayer de prendre le pouls, à questionner pour étudier ce qui est en train de se passer.
Notre enquête, elle est partie d'une frustration, en fait, après la manifestation du mois de septembre, post-démission Hulot. Il y a beaucoup de stéréotypes, d'idées préconçues qui traversaient les médias, notamment, mais pas seulement, l'univers politique, autour des participants à la mobilisation. On ne savait pas ce qui revenait souvent, c'était une participation relativement apolitique et également un peu attrape-tout d'un point de vue social. Beaucoup d'observateurs, malveillants parfois, estimaient également que c'était des manifestants qui étaient parfois inconséquents parce que eux-mêmes n'étaient pas prêts à changer de mode de vie. Donc, sur la base de l'ensemble de ce qui nous semblait être peut-être des jugements hâtifs, nous avons décidé d'aller nous immerger à l'intérieur de ces mobilisations pour comprendre, autour de questions simples, qui sont-ils du point de vue de leur univers professionnel, ces participants, qui sont-ils d'un point de vue idéologique, leur camp politique également, mais aussi essayer de savoir si ils étaient engagés eux-mêmes dans des pratiques de réforme de leur consommation, quel type de mobilisation ils étaient prêts à soutenir, etc. Vraiment des questions très simples, mais qui n'étaient pas informées et qui permettaient en quelque sorte de laisser libre cours à toute une série de stéréotypes. Donc on a commencé à informer ce travail à partir de la manifestation du mois d'octobre, puisque nous avions raté la manifestation du mois de septembre. Puis nous sommes rendus compte que certains poncifs pouvaient avoir des éléments de réalité. Par exemple, les participants à la manifestation d'octobre étaient très souvent issus du salariat qualifié, même s'il y avait une minorité qui provenait des catégories populaires, mais qu'ils étaient très largement engagés sur des pratiques de consommation alternative, qu'ils essayaient de eux-mêmes jouer le jeu de la transition écologique avec la limite qu'ils étaient, et c'est pour ça qu'ils étaient dans la rue d'ailleurs, qu'ils étaient confrontés à des contraintes systémiques très fortes. Ces mêmes personnes, par exemple, qui s'engageaient dans les AMAP, avaient beaucoup de mal à diminuer leur consommation d'avion du fait de leur travail. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils descendaient dans la rue.
Donc, ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, hein, même si on commence à avoir une mobilisation un petit peu plus ciblée, un profil peut-être type, ce qui ne veut pas dire que d'autres strates de la société ne sont pas de cœur avec eux, sans être pour l'instant dans les rues, bien sûr. Alors, on va sonder nos acteurs hein, du terrain, justement, Julien Gasque et puis Mathilde Himmer. Dites-nous l'origine de votre engagement, Julien, de votre côté.
Cet engagement a commencé lorsque j'ai fini ma classe préparatoire, où j'ai pu rentrer en école de commerce. Et là, j'ai pris la dimension selon laquelle il fallait passer de la conviction à l'action. J'ai passé 20 ans, les 20 premières années de ma vie, à apprendre des choses et à avoir des convictions sur le monde. Et qu'il y a un moment où il fallait passer à l'action. Et donc pour cela, je me suis d'abord engagé dans l'association de développement durable de mon école, qui est le NOISE. Et ensuite, j'ai pu avoir l'occasion de rejoindre l'équipe du Manifeste. Et donc de pousser encore plus loin cet appel de 30 000 étudiants et de faire véritablement bouger les lignes, tant au sein du monde de l'entreprise que du monde de l'enseignement.
Donc ça, c'était à peu près pour vous il y a deux ans, la prise de conscience.
Il y a moins de deux ans.
Il y a moins de deux ans, c'est ça, vous êtes en première année. Mathilde, un parcours un peu plus ancien.
Moi, j'ai eu un déclic. J'étais étudiante à l'époque en troisième année. Et le déclic s'est fait lors d'une simulation de négociation des COP, donc ces fameuses négociations qui réunissent tous les États du monde entier pour négocier sur le climat. Et la prise de conscience, elle s'est faite de manière très simple, c'était de comprendre ce qu'on me disait, les chiffres qu'on me donnait quand j'étais en classe, dans les bancs d'école, de les comprendre en termes de violence politique, de ce que ça signifie quand on regarde ces chiffres froidement et qu'on doit prendre des décisions qui ont un impact sur le quotidien de l'ensemble des citoyens de son pays. Et en fait, de jouer ce jeu de rôle en prenant la casquette de l'État indien, en prenant la casquette de l'État allemand, a été pour moi un véritable déclic de compréhension de ce que ça veut dire comme changement radical. Et à partir de ce moment-là et d'autres rencontres ensuite avec des acteurs philippins qui vivaient la réalité du changement climatique telle qu'elle est aujourd'hui, parce qu'il est déjà bien en cours, même si on ne le sent pas forcément très fortement chez nous, ça a créé une colère qu'on essaye de transformer de manière positive pour faire bouger les choses de manière à ce qu'on s'en sorte.
Alors ce qui est intéressant avec ce mouvement jeune, c'est finalement la facilité à mobiliser parce qu'il y a une viralité de vos appels par le biais des réseaux sociaux. Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être ce qui fait la différence par rapport à d'autres mouvements? Mathilde Himmer.
Alors je dirais qu'il y a deux choses. Je fais partie de ceux qui ont coordonné la campagne « On est prêt ». Ça a marché, oui, parce que les jeunes aujourd'hui s'informent et regardent énormément les réseaux sociaux. Néanmoins, ça a marché aussi parce qu'il y a un travail de sensibilisation qui a été fait depuis des années par les acteurs de terrain et par les ONG, et qui commence à prendre dans la société. et que les jeunes sont de plus en plus conscients de ces enjeux-là et ont envie de prendre leur part de responsabilité. Et le message dont on est prêt était celui-là, c'était de dire « Moi, dans mon quotidien, je suis prêt à changer mes habitudes de consommation, mais attention, ce n'est pas le seul message. C'est aussi « Je suis prêt à ce que mon gouvernement et les acteurs privés de mon pays » bouge beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement que ce qu'ils ne font aujourd'hui.
Après, on peut être prêt au niveau de la société civile, mais eux ne sont pas forcément prêts. Hervé Kempf, c'est peut-être la différence justement d'attente hein, sur ces questions-là.
Les gouvernants et les grandes entreprises, certainement pas. On a un vrai problème de classe dirigeante en France et sans doute dans les autres pays qui reste massivement orienté vers un paradigme de croissance, d'inégalité sociale aussi très forte. Ça rentre en jeu, de développement. Et par exemple, il y a un projet qui est en train de se faire sans aucune réserve d'agrandissement de l'aéroport Charles de Gaulle ou un terminal 4 envisage de faire passer, de faire arriver 40 millions de passagers de plus. On fait des autoroutes à côté de Strasbourg. On va développer Europa City, à nouveau un énorme centre commercial qui artificialiserait des centaines d'hectares aux portes de Paris. Donc, on reste dans une logique, cette logique-là. Et je pense que très rapidement, si le mouvement climatique de la jeunesse confirme son impétuosité et son énergie, il va être confronté très rapidement à une question politique de rentrer dans des luttes concrète, c'est-à-dire que manifester, signer des pétitions, j'allais dire c'est très bien, mais en aucun cas ça ne peut suffire pour établir un rapport de force, et c'est maintenant un enjeu de rapport de force politique qui est en question.
Eh bien allons-y justement sur les appels, la méthode, les modes d'action, les revendications. Peut-être tout d'abord avec vous, Julien Gasque, expliquez-nous ce que vous avez mis en place, ce que vous revendiquez, et puis ensuite Yann Lelanne, vous porterez le regard du sociologue sur justement peut-être la spécificité de ces mouvements jeunes.
Le Manifeste étudiant pour un rêve écologique est un texte qui est paru en septembre 2018 et qui a été signé par près de 30 000 étudiants dans 300 établissements d'enseignement supérieur. Par là, nous, les générations futures, nous signifions l'importance d'engager un véritable changement de la part des entreprises, du monde de l'enseignement et de nous-mêmes pour répondre à des impératifs écologiques. Et nous sommes maintenant dans un deuxième temps, puisque nous sommes dans une démarche d'échange et de coopération avec les différentes parties prenantes, qui sont donc les entreprises et le monde de l'enseignement, où nous essayons de leur faire passer notre message, qui est que nous, étudiants, nous nous rendons compte, à mesure que nous nous approchons de notre premier emploi, que nos convictions personnelles rentrent en contradiction avec les postes vers lesquels notre système économique nous oriente. Et nous voulons montrer que nous sommes prêts à prendre sur nous, à revoir notre zone de confort et à nous engager dans ce changement-là. Et donc pour ce faire, nous avons des contacts dans les grandes entreprises, ce qui nous permet de les rencontrer et de leur faire comprendre des points concrets. L'important est de passer à une démarche d'engagement, à des retombées concrètes qui puissent véritablement changer la façon dont ces entreprises travaillent.
Donc il faut préciser que les étudiants, il y a des étudiants de grandes écoles comme Polytechnique, l'ENA, HEC, AgroParisTech, Sciences Po, etc., qui déclarent donc ne pas vouloir travailler dans des secteurs polluants et donc non durables et responsables. Après, on peut se poser la question, est-ce que c'est envisageable d'avoir ce genre d'attitude? Parce qu'il y a cette demande de sens, de cohérence et d'éthique, d'honnêteté hein, qu'on ressent plus massivement chez les jeunes, donc pas de greenwashing. Mais encore faut-il effectivement changer non seulement la mentalité, la façon de faire des entrepreneurs, mais aussi le contenu de vos enseignements.
Oui, bien sûr, c'est le deuxième volet justement de notre chantier actuel, qui est donc un pôle enseignement, où nous essayons de faire changer les cours. Puisque nous avons compris que pour changer le système actuel, il fallait le changer à la racine, et que cela commençait par l'éducation et l'enseignement. Nous, dans nos formations, nous avons très peu de cours sur les enjeux écologiques et le développement durable. Ce n'est absolument pas normal que les futurs ingénieurs, économistes ou financiers n'aient pas acquis cette dimension-là avant de passer dans la vie réelle. Et donc pour cela, nous adoptons une double démarche. La première est de ressolliciter nos signataires pour savoir lesquels sont motivés à aller voir leur administration pour changer leur cours. Et à cela, nous leur apportons un réseau, mais également une aide technique qui regroupe les différentes initiatives qui ont été faites partout en France.
Yann Lelanne, le manifeste étudiant pour un réveil écologique, c'est un manifeste, il y a d'autres, voilà, le mouvement a une autre ampleur, il y a les collégiens, les lycéens, enfin il y a vraiment d'autres mouvements, même si on les met tous dans ce mouvement jeune. Est-ce qu'on a raison de faire ainsi d'ailleurs?
Alors, les sociologues ont toujours tendance à, effectivement, vous avez raison, à se méfier de terminologies comme la jeunesse, etc. On le voit bien, là, un manifeste issu des écoles d'élite, c'est une jeunesse, et c'est pas l'ensemble de la jeunesse, même si ce type d'action peut arriver à se déployer très largement, on verra ce que ça donne. En tout cas, vous avez raison, il y a une grande diversité en fonction des modes d'action. Là, on a un manifeste. Nous, ce qu'on a réussi à informer, c'est les participants jeunes aux manifestations contre le réchauffement climatique. La première chose que l'on s'aperçoit à l'intérieur de nos résultats, c'est qu'ils ont quand même tendance à être proches, d'un point de vue social, de leurs aînés. D'un point de vue idéologique, ils se situent en général très à gauche ou à gauche, et d'un point de vue social, ils ont un très fort niveau de diplôme, je reviens pas là-dessus. Ils ont par contre un certain nombre de spécificités, ces jeunes, à l'intérieur des manifs intergénérationnels pour le climat. La première, c'est que ils sont particulièrement anticapitaliste, c'est-à-dire qu'ils considèrent que l'impératif écologique implique des formes de rupture avec la société telle qu'elle se développe jusqu'à présent. Les normes de la marchandise sont très critiquées par les participants jeunes des manifs intergénérationnels. Alors, ce sera probablement différent, peut-être, en tout cas, on peut en faire l'hypothèse, si un mouvement de jeunesse spécialisé sur la mobilisation des lycéens, des étudiants se développe, peut-être qu'il aura une base sociale, des rapports au système économique qui seront peut-être un petit peu différents, mais là, pour l'instant, on ne peut pas le dire, parce que malheureusement, il n'y a pas de données qui sont réalisées sur les manifestations en Suisse et en Belgique, et que le mouvement en France n'en est qu'à ses balbutiements en ce qui concerne la grève des étudiants et la grève des lycéens.
Oui, et puis il faut préciser que peut-être que pour l'opinion publique générale, tout n'est peut-être pas très clair, parce que dans certains pays, les mouvements de grève ont lieu le jeudi. En France, on a compris que c'était le vendredi. Pour les manifestes et les actions d'étudiants de grandes écoles, là, c'est plutôt le vendredi après-midi où on va se rendre devant le ministère de l'Environnement, c'est ça, et exiger chaque semaine. Enfin, moi, j'ai compris ça, Mathilde Limer, vous allez me dire, des étudiants qui vont exiger chaque semaine du gouvernement une action. Et si l'action n'est pas réalisée dans la semaine suivante, enfin, il y aura presque des sanctions, un comité de discipline peut-être pour l'État. En tout cas, il y a vraiment des façons qui sont pensées, coordonnées, mais la lisibilité est peut-être pas forcément acquise.
C'est sûr que c'est des initiatives qui ne sont pas l'égérie d'une seule jeunesse. Et ce qui est très intéressant, c'est ce que disait Yann tout à l'heure, c'est que c'est toute une génération en fait. On voit les jeunes élites qui s'emparent d'un manifeste pour dire aux grandes entreprises et à leurs pères finalement, à leurs aînés, changez plus vite parce qu'on n'en peut plus de ce système-là et on ne fera pas comme vous, aller dans des grandes entreprises ou dans des gouvernements qui ne sont pas cohérents avec les valeurs que nous avons aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que justement, ça ne prend pas les mêmes formes et que toute une génération dit la même chose, avec chacun son mode d'action. Ceux qui sont dans l'élite vont prendre un manifeste et poliment prendre des rendez-vous avec les PDG et les COMEX des grandes entreprises et ou les gouvernements. Ceux qui sont dans une classe sociale qui ne regardent pas les informations vont se connecter sur YouTube et changer leur quotidien à leur échelle et signer une pétition qui est la pétition de l'affaire du siècle. Ceux qui ont l'habitude d'aller faire des marches et de manifester vont aller faire des marches. Mais tous ont ce même message, comme s'il y avait un changement de conscience d'une génération, voire de plusieurs générations qui étaient en phase. Et c'est là où le message doit être entendu par nos aînés. Et l'idée n'est pas de leur faire peur, mais vraiment de se dire, maintenant, c'est maintenant qu'il faut changer. Et on est prêt à aider, à collaborer, à condition que vous soyez honnête sur vos intentions et que l'envie de changement radical, parce que le changement qui est nécessaire est radical, soit là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi testé un sondage qui sortira bientôt sur des propositions qui relient les questions écologiques et sociales. On parle souvent, est-ce que finalement, être écolo aujourd'hui, c'est forcément être anticapitaliste? Et bien, on a testé des revendications qui relient des revendications sociales qui peuvent se retrouver dans celles des Gilets jaunes, par exemple, aujourd'hui, et des revendications des écolos. On les a croisées, et en fait, quand on demande aux Français leur opinion et ce qu'ils pensent de ces propositions, c'est un plébiscite, à près de 80%. Alors même que la moitié de la population est toujours pour un changement à petit pas sur ces questions-là. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la société, même si elle ne se considère pas comme plus radicale ou avec une volonté de rupture, est prête à des changements beaucoup plus importants qu'avant et qu'auparavant. Et donc je pense que c'est l'influence des jeunes, mais que c'est juste un miroir grossissant de ce qui se passe dans la société.
Et tout ça, ça induit aussi une nouvelle façon de concevoir le rôle des citoyens dans la politique. On y revient dans un instant, et notamment avec vous, Hervé Kempf, parce qu'il y a quand même de quoi désarçonner les gouvernements en place. Vous allez écouter d'abord l'analyse de Jean-Pierre Strobants, qui est correspondant du Monde en Belgique, que nous avons joint par téléphone. Et oui, la Belgique qui semble devenir une locomotive en Europe.
c'est pour qu'on arrête de gaspiller le futur et qu'on prenne enfin des décisions pour qu'on ait un futur, justement.
Je compte ouvrir en fait mon endroit avec ma ferme, mes chevaux et tout faire moi-même, genre mon potager, mes poules qui me donnent des œufs, tout ça c'est mon projet en fait. Et j'ai pas envie de mourir et j'ai encore envie de vivre longtemps, donc j'y retournerai jeudi prochain et jeudi d'après et encore jeudi d'après.
Personne n'avait prévu cette mobilisation et je pense que les animatrices du mouvement, puisque ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que les porte-parole de ce mouvement, tant du côté néerlandophone, puisqu'il a démarré en Flandre, que du côté francophone ensuite, sont des jeunes femmes extrêmement motivées, très intelligentes, dirais-je, très argumentées, et elles ont progressivement, alors qu'elles n'y croyaient peut-être pas elles-mêmes au début, vraiment mobilisé toute une société, et le thème du climat, que personne n'avait vu venir, est aujourd'hui vraiment à l'avant-plan de cette campagne électorale qui démarre, alors que traditionnellement, je dirais, on parle en Belgique comme partout des mêmes sujets, le pouvoir d'achat, la crise, le chômage, la migration, qui était le thème qui a fait tomber le gouvernement actuel d'ailleurs, en tout cas qui l'a transformé en gouvernement minoritaire, et donc tout le monde a été pris de court, et les politiques d'abord n'ont rien dit, dans un deuxième temps ont tenté, entre guillemets, de récupérer ce mouvement en rencontrant les jeunes, en leur disant que, bien entendu, on allait les écouter et qu'on allait traduire tout ça en actes. Je pense que les jeunes ne les ont pas réellement cru. Et dans un troisième temps, et on est dans cette phase-là aujourd'hui, on est dans la théorie du complot, à savoir que la ministre régionale flamande de l'environnement, puisqu'il grande spécificité de la Belgique, c'est que le pays, malgré sa petite dimension, compte 4 ministres de l'environnement, un fédéral et 3 dans les régions, ce qui complique évidemment énormément la prise de décision. La ministre régionale flamande est tombée, elle a dû démissionner, elle était en larmes, parce qu'elle a dû avouer qu'elle s'était trompée et devant une assemblée d'agriculteurs. Elle avait invoqué la théorie d'un complot dont, disait-elle, les services de renseignement l'avaient informé. Les services de renseignement n'avaient en réalité rien dit. La ministre a dû présenter des excuses et son parti lui a conseillé de prendre la porte. Et donc, je dirais que le scalp de cette ministre est la première victoire de ce mouvement. Il y en aura sans doute d'autres, parce que je pense vraiment que on pourra pas, compte tenu de l'ampleur de cette mobilisation et de la ténacité des jeunes, on ne pourra pas gommer ce thème-là lors des élections du mois de mai, ni par la suite d'ailleurs. Je pense que c'est vraiment inscrit désormais dans ce débat public belge qui, en général, se préoccupe de beaucoup d'autres choses.
Hervé Kempf, c'est ce qui se passe en Belgique. Regardons aussi ce qui se passe ailleurs et notamment en France. Est-ce que ces jeunes peuvent potentiellement faire peur ou commencent à faire peur voilà, quand on entend cette théorie du complot qui a déjà émergé en Belgique.
Non, je crois que c'est du gouvernement dont il faut avoir peur. C'est des classes dirigeantes dont il faut avoir peur, puisque ce qui motive une partie de la jeunesse, effectivement, évitons peut-être de généraliser trop largement, mais une partie de la jeunesse, c'est la gravité du changement climatique qui s'annonce dans une évolution où il y a un paradigme d'effondrement théorisé par un certain nombre de gens, enfin la perspective de l'effondrement de la civilisation. On est dans ce cadre-là et pour l'instant, c'est les mesures, les politiques menées, une fois de plus, je suis désolé d'employer ce terme, par les classes dirigeantes, qui font peur réellement. Et par ailleurs, les instruments de répression utilisés par ces gouvernements, puisqu'on ne peut pas parler du mouvement sur le climat en ce moment, en faisant abstraction du fait qu'il y a en France, depuis plusieurs mois, un bouleversement social, en tout cas une révolte sociale extrêmement forte, qui est portée par ce qu'on appelle les gilets jaunes. Et où là, on voit que ce qui fait peur, c'est en fait la répression très violente des gouvernements français. Donc déjà, si on se situe dans cette perspective, ça fait changer la donne. Après, une fois de plus, est-ce que ce mouvement de jeunesse pour le climat, dont il faut attendre quand même en France de voir la réelle manifestation, même si les manifestations pour le climat en septembre et en octobre, que a évoqué Yann Lelal, ont été extrêmement importantes. Je crois qu'on n'avait jamais vu autant de personnes pour le climat en France. Est-ce que ça va se concrétiser? Est-ce que ça va se renforcer? Et puis, et c'est le sondage qu'on a très envie de lire qu'évoquait Mathilde Himmer, est-ce que vraiment il y a cette, parmi les personnes interrogées, cette appétence pour lier, articuler la question sociale et la question écologique, ce qui est maintenant impossible? Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le mouvement de jeunesse pour le climat va s'articuler avec le mouvement des Gilets jaunes, qui est l'expression d'une révolte populaire, c'est-à-dire qui est portée par, en gros, les 50% les plus pauvres de la société, je simplifie, mais c'est un petit peu ça, et qui ont une revendication de justice sociale, mais pas anti-écologique.
Yann Lelan, je crois que vous avez commencé justement avec votre travail de sociologue, votre équipe, à regarder ça, peut-être ce rapprochement, la façon dont le mouvement des jeunes peut se solidariser ou se solidarise déjà avec le mouvement des Gilets jaunes. Hein. Gilets verts le vendredi, appel à rejoindre le mouvement des Gilets jaunes le samedi, c'est ce qu'on a déjà vu quand même.
Est-ce que ce mouvement ou est-ce que l'écologie met déjà en crise le politique? Finalement, ce qui se passe en France depuis 3 mois montre puisque c'est une politique écologique contestable qui a provoqué le mouvement, en tout cas c'est cette taxe sur le diesel qui a provoqué, et donc on voit bien que le politique déjà bute, s'il ne prend pas en compte l'articulation justice sociale, justice écologique, il n'y a pas de politique écologique possible, et c'est ce qui se passe depuis 3 mois à l'intérieur du pays. Alors nous y compris, nous étions en train d'étudier également les mouvements des gilets jaunes en même temps, avec autour d'une série de questions sur est-ce qu'il s'agit d'un mouvement anti-écologiste, etc. Et on s'aperçoit, effectivement, on est tout de suite sorti de cette problématique, parce qu'il ne s'agissait pas d'un mouvement anti-écologiste, qu'ils étaient prêts à soutenir la réouverture de petites lignes pour substituer le train à leur voiture, qu'ils étaient prêts à soutenir y compris la taxe carbone sur le transport aérien, puisqu'ils, pour une partie d'entre eux, ne prennent pas l'avion, etc., etc. Donc, il y avait bien une voie empruntable du point de vue de la politique écologique. D'inversement, du côté des manifestations contre le changement climatique, l'opposition qui est parfois mise en scène entre ces manifestations et les gilets jaunes, elle est pour une part artificielle, parce qu'il y a une large part des participants à ces manifestations qui souhaitent une convergence, y compris qui ont bougé leur position dans la manifestation contre le réchauffement climatique pour, entre par exemple le mois d'octobre et le mois de novembre, pour aller sur un enjeu articulation justice sociale, justice écologique. La manifestation de ce point de vue du mois de décembre ne ressemble pas du tout à celle du mois d'octobre. Les gilets jaunes sont passés par là, et donc il y a une prise de conscience de la lutte commune qui doit être réalisée et qui se développe. C'est pour ça que vraiment ce sondage va être attendu. Avec,
si on peut le mettre en ligne sur le site de l'émission, on le
grande,
fera.
Vous n'auriez pas dû le dire, on va tous l'attendre avec une grande impatience.
Dimer, oui.
En tout cas, lorsque nous sommes allés enquêter sur l'Agora climatique qui a eu lieu il y a 15 jours, qui rassemblait une partie de ceux qui sont le plus intégrés dans le mouvement pour la lutte écologique, eh bien, on s'aperçoit que l'idée d'une convergence avec les gilets jaunes, elle est là, elle est présente. La difficulté, c'est que ce sont des personnes qui ont parfois des lieux d'habitation différents, qui ont parfois des modes de vie qui sont différents également, et donc c'est difficile d'organiser cette convergence. Par contre, l'ambition de la créer, elle est là lorsque vous interrogez, en tout cas, ceux qui participent à l'animation de cette campagne.
Et ben justement, sur ce point précis, la convergence, Julien Gasque et puis ensuite Mathilde Dimer.
L'équipe du Manifeste et étudiant pour un réveil écologique n'appelle pas directement à la grève, mais montre une certaine sympathie pour ces mouvements, puisqu'en effet, il est important que la pression de la transition écologique vienne de toutes parts pour que le mouvement se fasse. Toutefois, nous avons choisi un canal beaucoup plus institutionnel et beaucoup plus coopératif, car c'est celui-ci qui nous permet de trouver une oreille attentive de la part des entreprises et des pouvoirs publics. Et donc, nous ne voulons pas perdre ce positionnement vis-à-vis de ces grèves-là, mais que nous soutenons d'une certaine manière, parce que c'est important que toute la société se mette en marche pour cette transition écologique.
Mathilde Imer.
Sur la convergence, ce que je trouve très intéressant, c'est le ministère de Nicolas Hulot s'appelait le ministère de la transition écologique et solidaire. C'est lui qui l'avait voulu, et c'est pas juste un mot, c'est pas juste un symbole. Ça signifiait pour lui le fait simple que cette transition écologique ne pourrait avoir lieu sans les gens, sans les plus pauvres, sans l'Afrique aussi en partie, donc sans les pays aussi en voie de développement. Et le fait est que le départ de Nicolas Hulot a créé une onde de choc qui se retrouve dans les mobilisations jeunes, mais je pense pas que, en tout cas qui a été un sorte de vérificateur de compatibilité entre l'écologie et le programme que peut avoir à ce stade le gouvernement d'Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que Nicolas Hulot est parti en partie pour une raison simple, c'est que cette taxe et la fiscalité qui étaient mises en place étaient certes en partie écologique, mais asociale. Or, une transition écologique ambitieuse ne peut pas se faire si elle n'a pas de justice sociale avec laquelle elle est impliquée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire derrière que les troupes, finalement, dont parlait Nicolas Hulot lors de sa démission, sont pas uniquement celles des écolos militants de tout banc, mais aussi celles d'une frange de la population qui ne s'exprimait plus, ou très peu, et qui aujourd'hui est dans la rue. Prendre la parole sur les jaunes est toujours très compliqué pour moi, dans le sens où il n'y a pas des gilets jaunes de manière uniforme, il y a des gilets jaunes de manière très hétérogène. Donc il y a une frange des gilets jaunes, en tout cas, et qui est pro-écologie, et on le voit très bien dans la pétition qui a lancé le mouvement. C'est très clairement marqué qu'il y a une profonde volonté d'avoir une transition écologique et sociale. La question qui est posée, c'est comment on s'organise maintenant qu'on a les troupes pour que ça reste pacifiste. Que ça reste pacifiste, je le redis, parce que c'est extrêmement important et que les signaux qui sont donnés par le gouvernement n'encouragent pas toujours dans ce sens-là. Moi, je souhaite, j'espère, et on est nombreux à aller dans ce sens-là, qu'on arrive à s'organiser pour arriver à des luttes politiques très concrètes, très précise, gagnable de manière constructive avec le gouvernement et on l'espère pas contre. En tout cas, nous avons envie de lui donner le soutien pour faire une transition écologique ambitieuse, qui n'est pas toujours facile quand on voit les changements radicaux que ça suppose.
Donc pacifique, sans risque de débordement et de violence. Après, vous nous parlerez aussi, dans un deuxième temps, peut-être de la façon dont la coordination se fait. C'est parce qu'il y a la coordination nationale, mais il y a aussi la coordination internationale. On part justement à l'international pour voir ce qui se passe en Suède, puisqu'il y a aussi le risque, quand on est dans ces mouvements jeunes et leaders, de subir les conséquences d'une exposition médiatique qui dérange. C'est le cas de Greta Thunberg, accusée la semaine dernière d'être manipulée. Écoutez le témoignage de Anne-Françoise Hiver, correspondante du journal Le Monde dans les pays scandinaves.
Why are we not reducing our emissions?
Pourquoi est-ce que l'on ne remplit pas nos missions? Pourquoi augmente-t-elle sans cesse? Est-ce que nous risquons une extinction de masse? Sommes-nous l'incarnation du mal?
Ce geste de cette collégienne en Suède, il faut savoir que c'est assez inhabituel. La grève, les manifestations, ça fait pas partie de la culture suédoise, c'est une culture de la conciliation. Donc voir cette collégienne devant le Parlement qui refusait d'aller à l'école, ça a suscité un intérêt et puis petit à petit ça a été repris et ça s'est propagé très vite à l'étranger. Pas en Suède, c'est ça qui est assez étonnant d'ailleurs, parce que le mouvement est assez limité en Suède.
Donc on peut dire qu'elle est plutôt devenue virale sur les réseaux sociaux à l'échelle mondiale.
Oui, et en inspirant à l'action, puisqu'on le voit dans les manifestations ailleurs, dans d'autres pays, l'Australie, l'Europe.
And yes, et oui, nous avons besoin d'espoir, mais plus que de l'espoir, nous avons vraiment besoin d'action. Aujourd'hui, nous consommons 100 millions de pétrole chaque jour. Nos politiciens doivent changer cela, laisser ce pétrole sous terre. On ne va pas sauver le monde en jouant avec les règles, car les règles doivent changer. Tout doit changer, et cela doit commencer aujourd'hui.
Elle a toujours un écho incroyable dans le monde entier, mais elle subit aussi le revers de cette situation, c'est-à-dire qu'on l'accuse d'être manipulée.
Oui, c'est quelque chose qui a commencé en Suède où un journaliste a expliqué qu'elle avait sans doute été influencée ou manipulée même par un spécialiste de la communication, ce qui depuis a été battu en brèche, autant par ce spécialiste en question que le journaliste qui est revenu sur ses propos, que ses parents qui disent que l'action de leur fille est totalement spontanée, que d'ailleurs ils ne sont pas favorables à la grève scolaire puisqu'ils trouvent qu'elle sa place est à l'école, mais bon, ils la soutiennent quand même. Et très vite, en fait, ça a été repris par des sites, des polémistes de droite en Suède. Ça existe aussi. Et qui ont monté ça en épingle. Ça s'est propagé sur les réseaux sociaux. Alors, elle sait comment s'adresser aux gens, autant en conférence que sur les réseaux sociaux. Et elle a assuré sa défense de façon assez spectaculaire en disant que non, son action est spontanée. Qu'il y a eu effectivement des tentatives de récupération, mais que ça ne change rien à son engagement.
Une réaction des uns et des autres, ça veut dire aussi que ces jeunes doivent gérer les fake news, les tentatives de manipulation, Hervé Kempf.
Sur Reporter, on a publié il y a deux jours le texte très clair de Greta Thunberg sur Facebook. Et par ailleurs, on avait publié deux jours avant une chronique d'Isabelle Attard, qui a vécu en Suède et qui a vécu en Laponie et qui parle suédois. Effectivement, on peut quand même dire que c'est pas du complotisme ou de la fake news. Greta Thunberg a été aussi pris dans un écosystème de gens qui ont cherché à l'utiliser. Donc, autant le mettre sur la table et autant qu'elle réponde, puisque cette jeune fille de 15 ans a la tête bien posée, mais il faut pas avoir peur de quoi que ce soit. Et en fait, ce que dit Greta Thunberg n'est pas du tout à l'eau de rose ou à l'eau tiède. Elle dit il faut y aller, quoi. Et elle-même, son acte personnel, qui est quand même fort, 15 ans, elle doit être en seconde, en première, je ne sais pas, d'aller devant le Parlement avec son cartable et au début, une certaine réticence largement de peut-être ses parents et en tout cas de l'école, c'est pas tout à fait simple. Et donc, elle-même, personnellement, à transgresser une règle. Et je pense que c'est ça, une fois de plus, l'enjeu. Est-ce que on va être un mouvement pétitionnaire, on va marcher, on va dire, monsieur le gouvernement, monsieur le président de chez Total, est-ce que vous allez accepter de ne plus aller forer du pétrole au large de l'Amazonie?
Ou est-ce qu'en France, des gamins vont pouvoir faire massivement grève? En France, c'est pas gagné. Il y a eu une tentative, notamment dans le Tarn-et-Garonne, une jeune fille, et qui s'est vue juste signifier qu'elle n'avait pas le droit. Donc, c'était plus compliqué. On a le sentiment que, en France, le mouvement, pour l'instant, n'existe pas. Yann Lelanne.
Ce mouvement-là, il n'existe pas, mais il y a une implication de vraiment dizaines de milliers de jeunes par des canaux qui ne sont pas spécialisés sur les mobilisations de jeunesse, mais qui sont très vastes. La signature pour la pétition qui a réuni plus de 2 millions de personnes, etc. Il faudrait
faire, et le mouvement à venir le 15 mars.
Et le mouvement à venir le 15 mars.
La lame de fond est peut-être à venir.
Il y a un registre d'action qui est énorme. D'où vient-il, ce registre d'action qui est très diversifié? Il vient du fait que, et d'ailleurs dans la vignette introductive que vous avez mis en place, comme dans l'intervention de Greta Thunberg, il y a le retour d'une idée de l'héroïsme en politique. C'est assez spectaculaire. C'est-à-dire que c'est vraiment la crise de la politique des petits pas, ce qui marque la période. Depuis, en tout cas en France, à la rentrée de septembre, la politique des petits pas est en crise. Et ces mouvements de jeunesse, mais peut-être par-delà les mouvements de jeunesse, c'est le retour à une question de l'héroïque en politique, c'est-à-dire d'agir tout de suite, immédiatement, intensément, puissamment, puisque le cadre qui est posé d'un point de vue des contraintes pour réaliser une bifurcation écologique efficace, c'est 10 ans, 12 ans, les chiffrages sont... mais en tout cas, sur le calendrier politique, c'est extrêmement court. Évidemment, là-dedans, la question violence, non-violence, elle est un petit peu décalée par la façon dont les acteurs s'interrogent. C'est beaucoup plus souvent obéissance, désobéissance civile qui traverse le mouvement que violence, non-violence. Si vous allez demander à ces jeunes Belges, jeunes Suédoises, etc., s'il faut respecter les règles, ils vous disent clairement, si les règles sont injustes du point de vue de la bifurcation écologique, nous ne les respecterons pas. Alors évidemment, pour le cadre démocratique de la discussion posée, tout ça peut sembler très percutant. Mais en même temps, c'est peut-être le retour à une question qui est de la question de la souveraineté du politique, qui est peut-être une question fondamentale, la question de la souveraineté populaire posée à une échelle internationale. Et donc là, forcément, le politique se retrouve classique, peut-être, se retrouve peut-être un peu dépassé. Mais ces jeunes, en tout cas, ils sont comme des poissons dans l'eau à l'intérieur de cette aspiration à pouvoir réaliser une vraie, réelle transition écologique.
Nous poursuivons la discussion dans un instant, juste après le choix musical. Et donc ce choix musical appartient à Julien Gasque. Vous avez choisi de nous faire écouter Polo et Pan.
Canopée, oui.
Canopée, il y a une raison particulière?
C'est une musique que ma famille aime beaucoup et qui, je trouve, donne de l'inspiration et reflète un petit peu la nature.
C'est la suite de notre émission De cause à effet sur France Culture, consacrée aujourd'hui au mouvement des jeunes pour sauver le climat, en France, en Europe et dans le monde. Analyse du phénomène et de son pouvoir possible avec nos quatre invités, Hervé Kempf, rédacteur en chef de Reporter, Yann Lehlan, qui est sociologue, Julien Gasque, étudiant à l'école de commerce ESCP Europe et un des membres du manifeste étudiant pour un réveil écologique, et puis Mathilde Himmer, cofondatrice d'associations d'étudiants et de jeunes pour le climat. Mais tout de suite, notre revue d'un faux environnement. Quelques nouvelles glanées sur le front de l'environnement. Dans cette semaine déjà marquée par la disparition annoncée de tous les insectes de la planète d'ici 100 ans, et ce qui signifie un effondrement catastrophique des écosystèmes naturels, on apprend la disparition prochaine au Cambodge des derniers spécimens du léopard d'Indochine. Déjà disparus de Singapour, du Vietnam et du Laos, les léopards d'Indochine sont l'une des 8 sous-espèces du léopard. Or, selon une étude publiée en février dans la revue scientifique Royal Society Open Science, il n'y aurait plus qu'un individu pour 100 km² au lieu de 3 à 5. Parmi les causes de cette disparition, la déforestation massive en Asie du Sud-Est et le braconnage. Au niveau mondial, 7 des 8 sous-espèces de léopards sont classées par l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, comme en danger ou en danger critique d'extinction. À lire en détail sur le site de National Geographic et de la Royal Society Open Science. En Guyane, le tribunal administratif annule l'exploitation d'un projet de la société Montagne d'Or. Il ne s'agit pas du projet phare de Montagne d'Or, mais d'un projet plus petit de travaux miniers pour l'exploitation d'or alluvionnaire sur une surface d'1 km². Mais c'est pour les associations de défense de l'environnement une première victoire et elles espèrent à terme obtenir l'annulation du projet d'extraction industrielle à lire sur lemonde.fr avec AFP. Qui remporte la palme du moins de notre sélection, l'artificialisation des terres qui continue de progresser, comme le disait Hervé Kempf dans notre première partie d'émission. Et oui, au rythme d'un département tous les 7 ans, plus vite que la population et au-delà de nos besoins, à lire sur le site de Reporters, justement, date du 13 février. Et difficile, effectivement, de ne pas penser au triangle de Gonesse et au projet Europa City avec ses 80 hectares. Et au total, ce sont 280 hectares de terres agricoles concernées dans ce secteur. Pour un info. Le 20 février 2019, les défenseurs et soutiens du Triangle de Gonesse organisent un grand meeting, salle Olympe de Gouges à Paris, dans le 11e arrondissement. Et le plus de la semaine revient, allez, soyons gourmands, deux annonces, l'interdiction de la pêche électrique d'ici 2021 en Europe, et puis aussi donc au secrétaire d'État aux finances néerlandais, Menno Snell, qui, devant ses collègues européens réunis à Bruxelles, a proposé une taxe européenne sur les avions et leur rejet de CO2 pour répondre de façon commune à l'urgence climatique.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Une réaction possible, si vous le souhaitez.
En rebond à ce qu'on a dit, par exemple, la pêche électrique a été portée notamment par une association Bloom, qui a été animée par une jeune femme, Claire Nouvian. Ouais. Et voilà, ça veut aussi dire que l'héroïsme a un vrai sens quand des personnes déterminées s'engagent, à condition qu'elles ne restent pas seules et qu'elles aient une capacité à s'inscrire dans un collectif pour ne pas être seules et faire force commune.
Mathilde Imer,
rebondis sur ce que vient de dire Hervé et ce que disait Greta. On est dans un moment où, en fait, c'est un changement de conscience, pas juste de compréhension rationnelle de ce qui se passe, mais un véritable changement de conscience. Et moi, j'ai toujours cette petite phrase d'Einstein qui disait « On ne règle pas un problème du niveau de conscience duquel on l'a créé. On ne réglera pas le changement climatique du niveau de conscience duquel on l'a créé. » Qu'est-ce que ça veut dire, changer de niveau de conscience? J'ai pas la réponse. Mais rien que reconnaître, si collectivement on était capable de dire « On ne sait pas résoudre cette équation du changement climatique » comme on l'a fait jusqu'ici avec des cerveaux bien en pensant, en haut de bureaux, que ce soit des États ou que ce soit des multinationales, eh bien ça ferait du bien à tout le monde, parce que ça permettrait de travailler ensemble. Moi, quand je prends l'exemple de Total, qui a encore fait des profits énormes cette année, comme l'ensemble des pétroliers, avec plus de production, mais qui aussi avance à tout petit pas vers la transition écologique, mais qui essaye, c'est un changement énorme qu'on leur demande de faire. C'est normal que ce soit pas évident pour le PDG de Total ou le COMEX de Total de faire cette transformation. Néanmoins, moi, ce qui me manque aujourd'hui de ces dirigeants-là, c'est la reconnaissance que, un, l'intention d'y aller, forte, véritable, sincère, la même sincérité que Greta.
Et non pas du greenwashing que l'on voit dans certains secteurs, quand même.
Oui, mais au-delà de ça, c'est le reconnaître que si on ne sait pas faire, on ne sait pas faire, et ce n'est pas grave de le reconnaître, et ça, c'est un véritable changement de conscience et de paradigme qui est nécessaire aujourd'hui. Et pour revenir à un deuxième paramètre de changement de conscience pour moi, c'est au-delà de dire on ne sait pas faire et de le reconnaître et de se dire on travaille ensemble pour faire jouer l'intelligence collective qui sera la porte de sortie de ce siècle ou qui ne sera pas. La deuxième chose, c'est cette question des héros. J'avais jamais réfléchi à ça comme ça, mais c'est vrai que Claire Nouvian, qu'on a cité, qui porte Bloom et qui porte ce combat depuis un bout de temps et qui est une des rares à obtenir des victoires concrètes sur les questions environnementales, est une des personnes, moi, qui m'inspire énormément. Et quand je vois mon propre parcours, moi, j'étais sur les bancs de Sciences Po, j'ai jamais été dans la radicalité pendant très longtemps, toujours à être dans la politesse, à essayer de changer de manière constructive. plus ça avance, plus je me rends compte qu'il y a certains modes d'action qui sont insuffisants, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne servent à rien. Ou aujourd'hui, il y a des choses pour lesquelles je suis prête à mettre mon corps à disposition de certaines luttes, où j'étais par exemple à Ende Gelände, parmi ceux qui allaient bloquer la plus grosse mine de charbon d'Allemagne, parce qu'aujourd'hui, je suis prête à mettre mon corps et à prendre des risques juridiques pour faire ça, alors même que je reste ultra constructive et que je ne suis pas contre le gouvernement Macron, je ne suis pas contre Total. Par contre, je suis contre une certaine politique qui est menée aujourd'hui par ces acteurs-là.
Claire Nouvian, qui a aussi subi des menaces, y compris de mort, et on ne le sait pas forcément, mais c'est vrai que ce sont quand même des combats qui peuvent générer une certaine dose de violence à un certain moment. Concrètement, en ligne, le 15 mars prochain, dites-nous, parce que j'ai évoqué la question de la coordination, donc il y a une coordination nationale, est-ce qu'il y a une coordination internationale, parce que, ben oui, ce mouvement jeune prolifère un petit peu partout, est-ce que vous vous posez ces questions-là ou pas du tout, vous êtes vraiment centré pour l'instant sur l'événement en France, Mathilde Himmer et Julien Gasque?
Alors de mon côté, je n'ai pas de réponse pour la partie internationale, je ne suis pas à la manœuvre de l'organisation des marches pour ma part. Ce qui est évident, c'est que ces marches seront coordonnées en termes de messages avec les marches qui auront lieu aussi du côté des Gilets jaunes. Et la deuxième chose, c'est que ce mouvement-là commence à s'organiser et à se dire quelles sont les batailles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 2 millions de signatures à une pétition qui est la plus grosse pétition signée en France, qui est la pétition de l'affaire du siècle. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est bien beau d'avoir des clics, c'est bien beau, c'est génial. Bon, ça fait parler, ça fait le buzz médiatique. Concrètement, qu'est-ce qu'on a gagné? Je reviens à ce que disait Ariel Kempf. Aujourd'hui, concrètement, on n'a rien gagné. Donc c'est comment est-ce qu'on transforme ça et ces marches en mobilisation politique autour de revendications qui sont pas seulement celles de militants présents dans la rue, mais celles qui peuvent être entendues et soutenues par une grande majorité citoyenne. Et c'est pour ça qu'on fait ce travail de quelles sont ces propositions qui font ce consensus.
Julien Gasque.
Encore une fois, l'équipe du manifeste montre sa sympathie pour le mouvement du 15 mars.
Vous êtes prudent, hein, en tout cas.
Nous sommes prudents, car nous ne voulons pas aller au-delà de l'engagement qu'ont signé les étudiants. En revanche, à propos de cette coordination internationale, lorsque le manifeste a été lancé en septembre 2018, il a également été lancé en Belgique et en Suède. Et presque sans communication dans ces pays-là, nous avons recueilli plus de 3000 signatures en Suède. Et nous envisageons de faire paraître également en Allemagne et aux États-Unis, afin peut-être d'un peu unifier les mouvements étudiants mondiaux pour essayer d'avoir une dimension et une importance plus grande et faire véritablement bouger les lignes. Puisque si nous agissons à l'échelle française aujourd'hui, nous sommes quand même dans l'Union européenne et avoir une importance européenne est quelque chose qui peut encore donner de l'importance et de la cohérence à ce mouvement.
Yann Le Lanne.
Oui, alors ce qui est intéressant dans ce que vient de dire Mathilde, il y a un enjeu à essayer de cibler. Quelle est la fonction des réseaux, des pétitions sur Internet? On voit, y compris dans d'autres formes de mobilisation, que ça peut avoir un caractère décisif. Par exemple, au moment de la loi travail, la pétition contre la loi travail, pour les opposants à la loi travail, ça a été un moment de publicisation en grand du problème. Mais il faut aussi essayer de démythifier ce rôle d'Internet et des réseaux sociaux dans les mobilisations, parce que on s'aperçoit que c'est pas ça qui crée des formes de rapports de force qui permettent d'imposer une politique publique. C'est un moment du combat politique, mais ça ne peut pas être l'unique moment du combat politique, ou alors, on le voit bien là en l'occurrence, c'est une lutte qui sera inaboutie. L'enjeu du 15, je crois qu'il se formule comme ça, c'est est-ce qu'il est possible, sur la base des mobilisations passées et de cette mobilisation qui s'est faite via les signatures sur Internet, les pétitions aussi diverses soient-elles, est-ce qu'il y a la possibilité de créer une sorte de point de fixation qui fait que l'on passe d'une mobilisation que le politique peut traiter ou le gouvernement peut traiter à distance, comme ça, sans vraiment se mettre sur la question, à une obligation de répondre, déjà, parce que ça serait déjà pas mal, et puis à une obligation de encore mieux, peut-être, de traiter le sujet. Et là, on s'aperçoit qu'il faut un peu sortir de la mobilisation mythifiée, réseaux sociaux, Internet. Internet, il y a parfois besoin de créer ces nécessaires points de fixation, manifestations, occupations, etc., vers lesquels une partie du mouvement aspire à aller.
Nous allons aller du côté de la Belgique une dernière fois pour aller scruter cette vision politique des jeunes. Écoutez les propos de Jean-Pierre Straubens, correspondant du Monde à Bruxelles.
Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de les interroger sur la politique. Alors ils vous disent, écoutez, nous, la politique, on n'est pas contre, on est simplement sur ce que la politique fait de ce problème essentiel à nos yeux. C'est nous qui sommes la génération directement concernée par l'enjeu climatique. Nous ne sommes pas contre la politique, au contraire, nous voulons plus de politique, mais simplement, nous ne croyons pas au système des partis tel qu'il fonctionne. Et ces jeunes vous disent, bon, pour l'instant, nous, on attend de voir, on veut peser sur le débat, mais pas exclu qu'on aille peut-être vers d'autres formes d'action, de désobéissance civile ou des choses de ce type-là. Attendons de voir aussi le résultat de ce que sera cette grève internationale du 15 mars. Et donc, encore une fois, ce sont des jeunes gens très décidés, mais qui, même à l'égard des partis écologistes, n'ont pas d'antipathie innée, sont pas antipolitiques. Ce n'est pas non plus un mouvement de citoyens, c'est pas les Gilets Verts qui penseraient qu'on peut s'organiser indépendamment de toute autre structure classique. Ils sont vraiment extrêmement conscients de la manière dont fonctionnent les choses, mais ils veulent un autre type de politique. C'est ça qui me semble vraiment très intéressant.
Mathilde Immer, sur cette question de la vision politique, un autre pouvoir entre les mains des jeunes, c'est quand même le vote, avec ce qui se profile le plus rapidement sont les élections européennes, un bel enjeu.
Un très bel enjeu et un bel enjeu à double titre. Quand on regarde les dernières élections européennes, il y avait 70% d'abstention chez les jeunes. Et les 30% qui ont voté assez massivement FN, si ma mémoire est bonne. Donc il y a un enjeu de faire en sorte que les jeunes votent en Europe, mais au-delà de ça, cette abstention, elle dit une chose simple, c'est que notre modèle démocratique, il est grippé. Et de la même manière, la crise des Gilets jaunes ou la pétition L'Affaire du siècle dit la même chose. Est-ce que c'est normal que dans une société, des gens aient besoin de passer 10 semaines sur des ronds-points pour être entendus? Est-ce que c'est normal que dans une société démocratique, les gens aient besoin de signer une pétition et d'attaquer leur propre État en justice? Je suis écologiste, j'ai signé cette pétition. Ça m'ennuie, pour rester poli, d'avoir à attaquer mon propre État en justice. Néanmoins, c'est un des seuls moyens qui me reste pour être à la hauteur des enjeux qui m'importent, qui m'inquiètent et qui dessinent mon avenir. Et en fait, c'est là où l'enjeu démocratique rentre, c'est-à-dire que c'est pas juste aller voter, c'est changer les règles du jeu. Si on change pas le cadre, les règles du jeu, on n'arrivera pas à faire le changement qui est nécessaire. Et donc c'est vrai au niveau européen, c'est vrai aussi au niveau national, et donc il y a des enjeux de comment est-ce qu'on arrive à changer nos modalités de prise de décision qui sont complètement has-been. Même si, je le précise parce que je suis un peu cash dans ce que je dis, has-been ne veut pas dire qu'il faut aller du jour au lendemain vers une démocratie directe et, tout, et faire la révolution, loin de là. Par contre, clairement, on a une démocratie aujourd'hui qui est représentative, qui ne prend pas du tout en compte les évolutions qu'ont connues la société, notamment la transformation numérique, qui impacte très fortement notre génération et qui explique certainement pourquoi est-ce que la logique de réseau et la logique d'information est complètement différente dans notre génération et donc ne suit pas les codes des partis politiques traditionnels.
Julien Gasque.
Je pense que le manifeste rejoint cette analyse, qu'il y a, c'est vrai qu'il y a un réel décalage entre les attentes de changement de la part des jeunes et les réponses et les systèmes politiques qui sont mis en face. Notamment, nous allons organiser une sorte de débat, peut-être sur un modèle de celui qui est organisé par le gouvernement actuel, sans pour autant s'aligner par rapport à ce gouvernement, mais bien plutôt comme un moyen de mettre en lien à la fois des dirigeants d'entreprise, des représentants du monde de l'enseignement supérieur et des signataires du manifeste. Ce qui va être l'occasion pour nous de revenir vers eux et de les solliciter pour cet événement qui aura lieu début mars, où l'idée est donc que ces signataires, après avoir signé ce manifeste, puissent directement et d'un point de vue humain, en relation directe avec ces décideurs, leur faire part de leurs inquiétudes, de leur volonté. Donc c'est une certaine manière d'aborder peut-être le politique d'une autre manière, de façon plus directe, en ayant directement en face de soi, à la même table, les décideurs.
Hervé Kempf, Yann Le Lan, est-ce qu'on est en train de vivre un moment de bascule en politique ?
Non, je ne sais pas, à vrai dire. Mais je voulais un petit peu revenir sur le débat antérieur. D'abord, pour le dire cash, comme dit Mathilde, moi je pense qu'on n'est plus en démocratie. On peut peut-être pas encore dire qu'on est en oligarchie, mais on ne peut plus raisonner comme si on était en démocratie et comme si les forces dominantes, le capital, appelons ça comme on veut, jouaient franc-jeu. Ils ne jouent plus franc-jeu, elles ne jouent plus franc-jeu, et on est maintenant dans un niveau de conflictualité et de réappropriation de la souveraineté populaire, je crois qu'on a évoqué le mot tout à l'heure, vraiment important. Et de ce point de vue-là, moi je dirais pas les jeunes, c'est vrai que c'est compliqué, mais ce qu'on voit avec des jeunes qui s'investissent sur la question du climat et d'autres sont l'affirmation de ce souhait de... Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais dire, c'est que la politique, elle a besoin d'avoir des objets. Et je pense que cette revendication, si elle ne trouve pas ses objets, parce que le climat c'est tellement vaste pour chacun d'entre nous, c'est tellement par quel bout on le prend. Donc moi je me dis, mais concrètement, c'est Total en Amazonie, c'est la Montagne d'Or en Guyane, c'est le projet Europa City, c'est l'autoroute GCO au large de Strasbourg, et je pense que c'est ça sur lequel il faut mettre l'appui pour faire bouger la politique. En fait, il faut trouver des objets de cette revendication et de ce souci très fort qui est exprimé par le mouvement des jeunes pour le climat.
Le mot de la fin, Yann Le Lan.
On a tous les symptômes d'une crise et d'une bascule en politique qui se déroule devant nous. Pour le pire surtout, malheureusement pas pour le pire et le meilleur jusqu'à présent à l'échelle internationale. Pourquoi ? Parce que le cadre de développement des politiques libérales tel qu'il s'est développé depuis 40 ans est incapable de se saisir d'enjeux d'une telle dimension auxquels on doit se confronter, notamment face à la question écologique. Et par ailleurs, un retour aux formes keynésiennes de régulation, on le voit bien, est bouché et ne serait pas une solution non plus. Donc il y a un effort d'imagination révolutionnaire, ça réapparaît dans certains manifestes. D'ailleurs, le mot « manifeste » qui se diffuse montre bien l'état d'esprit en quelque sorte de la période dans laquelle les contradictions sont extrêmement fortes et les acteurs essayent de se saisir de ce qu'il y a de meilleur en tant que potentiel, comme peut-être les manifestes qui ont précédé les actuels. Mais en tout cas, ce moment de crise du libéralisme, il a clairement deux portes de sortie. Il a une porte de sortie du côté d'une forme autoritaire. Cela apparaît à la fois en Europe, aux États-Unis, et on voit que le point commun des autoritarismes, c'est fondamentalement un anti-écologisme. Il y a une connexion très forte entre le développement des régimes autoritaires pour pouvoir ne pas répondre à la question écologique. C'est ça l'un des points forts, entre guillemets, de cet autoritarisme, c'est de poser une non-solution à la question écologique. Face à ça, évidemment, il y a une forme de fragmentation du camp écologique. Il ne faut pas se voiler là-dessus. Au moment des pour les questions européennes et les campagnes à venir, on sait que les électeurs qui sont très préoccupés par les questions écologiques vont être divisés sur toute une série de listes. À l'occasion des élections européennes, en général, les listes écologistes, qui en portent le nom, réalisent un score supérieur aux autres élections, notamment parce que les électeurs estiment que, comme c'est une élection continentale et qu'il s'agit d'un sujet à minima continental, il faut soutenir ce sujet. Le problème, c'est que ensuite, lorsqu'ils votent, la faiblesse des articulations entre les listes écologiques et les autres thématiques, notamment la justice sociale, etc., qui sont souvent les positions des listes écologiques, sont critiquées comme ne prenant pas suffisamment en compte les questions de régulation économique, d'attaque ou de tenter de trouver des réformes face à la domination libérale, eh bien, fait qu'il y a un éparpillement, une fragmentation des forces écologiques.
Merci à tous les quatre pour ces éclairages sur ce mouvement jeune qu'on va suivre et avec en ligne de mire cette date du 15 mars. Et je précise pour les auditeurs qui pourront retrouver toutes les informations, bibliographie, les liens sur le site de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet. Bien sûr, lien vers reporter.net, les articles de Jean-Pierre Straubantz et de Anne-Françoise Hiver sur lemonde.fr. Les sites de chacun seront à disposition. Dimanche prochain, nous ausculterons cette planète à l'agonie avec son trop-plein d'hommes à nourrir. Et d'ici là, info à partager avec vous et à vivre le prochain forum France Culture La Sorbonne qui aura lieu mardi 19 février avec pour thème participation, représentation, information, le nouvel âge de la politique. Ce sera de 9h30 à 17h au Grand Amphithéâtre de la Sorbonne à Paris. Inscription obligatoire sur le site maisondelaradio.fr. Et dans un instant, c'est la suite de vos programmes sur France Culture avec Louise Touré et Être et Savoir.